L'économie de la migration est aujourd'hui à la une de la science.
Prendre notre part de la misère du monde, mais pas toute la misère du monde. Sinon, nous courons le risque de provoquer dans nos sociétés de véritables séismes économiques.
Alain Juppé, parlant de séisme économique en 2015, une menace remise en cause par une étude qui paraît aujourd'hui dans la revue Science Advances, signée par une équipe de trois chercheurs, parisiens et clermontois. Cette étude estime le poids que représentent les demandeurs d'asile pour leur pays d'accueil. Contrairement à certaines idées reçues, et comme l'avaient déjà montré d'autres études, l'accueil de ces personnes n'entraîne pas de dégradation économique et fiscale. Axel, pour en parler, nous accueillons un des auteurs de ce travail.
Oui, nous sommes en studio avec l'économiste Hippolyte Dalbis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche pour le CNRS et professeur à la Paris School of Economy. Le communiqué de presse que tout le monde a reçu pour accompagner vos travaux pour le CNRS était titré « Non, les demandeurs d'asile ne sont pas un fardeau pour les économies européennes ». Je voulais vous demander à qui s'adresse ce « non » puisque c'est une réponse à une question, non ?
Alors en effet, j'imagine qu'il s'adresse à ceux qui pensent le contraire,
oui.
Même si c'est pas forcément eux qui vont accueillir avec le plus de joie nos résultats. Mais plus sérieusement, c'est quand même mettre l'accent sur ce qui me paraît être le plus important dans notre étude. Si on trouve parfois mais des effets positifs de la migration, faut pas oublier que ce sont des personnes, personnes qui, surtout dans le cas des demandeurs d'asile, qui ont vécu souvent des situations extrêmement difficile. Et donc, il ne faudrait pas faire jouer à cette migration le rôle qui n'est pas le sien. On ne va pas accueillir des demandeurs d'asile pour relancer nos économies. Donc la vraie question, c'est de savoir si lorsqu'on fait ces choix, ou notamment ces choix politiques sur les demandeurs d'asile, ou lorsque l'on en discute, est-ce que c'est un coût ou pas ? Nous, ce que dit cette étude, c'est que finalement, ça n'en est pas un.
Alors comment est-ce que vous l'avez construit ce travail ? Quelles sont les choses à prendre en compte quand on cherche à savoir combien coûtent réellement les flux migratoires ?
Alors, ce qu'on a construit, en fait, c'est... on va utiliser des statistiques sur 31 dernières années pour une quinzaine de pays européens. Et donc, on va construire un modèle statistique qui permet de reproduire à la fois les flux migratoires, mais aussi l'évolution économique.
Et vous séparez deux types de flux, vous séparez les demandeurs d'asile des autres migrants. Qu'est-ce qui les différencie pour vous et pourquoi vous traitez ces deux types de personnes différemment ?
Alors un demandeur d'asile, c'est une personne qui arrive et qui demande la protection du pays dans lequel il arrive. Et donc il a pour cela un visa pour rester de façon temporaire, le temps de l'instruction de sa demande. D'accord ? Donc il est considéré comme un migrant temporaire d'un point de vue des statistiques. Et en effet, on va le distinguer de ce que l'on appelle les migrants permanents, qui ont finalement un droit de rester plus longtemps et qui ont parfois une intention de rester plus longtemps.
Et en termes économiques, quelles sont les différences ?
Alors, en termes de flux, vous voyez, par exemple, en 2015, on a reçu à peu près un peu plus d'un million dans les 15 pays d'Europe que l'on regarde de demandes d'asile, ce qui est beaucoup, mais ce qui est moins que finalement cette migration nette qui représente à peu près 2 millions, le double, vous voyez, qui peut être à la fois des mouvements à l'intérieur de l'Europe, mais aussi des mouvements de migration légale de l'Afrique vers l'Europe ou d'autres pays. Alors, les conséquences économiques de ces deux migrations sont très différentes. Voilà, la migration permanente, ce que l'on trouve, c'est qu'elle a un effet très positif sur l'économie, c'est-à-dire qu'elle augmente finalement les revenus moyens dans l'économie, elle fait diminuer le chômage, puis elle améliore les finances publiques. Et après, lorsqu'on se concentre sur la question de ces migrants temporaires particuliers que sont les demandeurs d'asile, vous voyez, on s'attendait pas à avoir un effet positif pour plein de raisons qui sont évidentes, ne serait-ce que pendant le temps d'instruction de votre demande d'asile, vous n'avez pas le droit de travailler, voilà, vous allez recevoir une allocation, etc. Mais ce qui était assez étonnant, c'est pour ça aussi que cette étude a été publiée, c'est que au total, ça n'est pas un coût pour les finances publiques.
Alors, si on rentre un peu dans le détail, dans la vie de ces gens, quels sont les coûts pour l'État, quels sont les bénéfices? Est-ce que vous allez jusque-là ou c'est seulement des hypothèses ou des calculs globaux sur ces 15 pays?
Alors, ce ne sont pas du tout des hypothèses, ce sont véritablement les chiffres, hein, tels qu'ils sont compilés par les instituts nationaux de statistiques. Hein. Alors, évidemment, donc il y a un coût d'argent public, parce qu'il faut les accueillir, il faut, d'une certaine manière, parfois, leur fournir un logement. Bon, ça dépend un petit peu des pays, mais on peut avoir un logement, on peut avoir une allocation aussi, hein, le temps de l'instruction de la demande. Donc, bien sûr que c'est un coût pour les finances publiques, mais ce que nous, on va montrer, c'est qu'il faut pas rester juste sur cette partie de l'histoire, il faut prendre les choses plus globalement. Et finalement, cet argent va être réinjecté dans l'économie. Hein. Simplement, on va recruter des personnes qui vont s'occuper des demandeurs d'asile, on va construire des bâtiments, etc. Et cet argent qui est réinjecté dans l'économie, il va relancer un petit peu l'économie. Et donc, les gens vont payer plus d'impôts parce que l'économie va être plus riche. Et donc, à la fin, lorsqu'on regarde les deux, vous voyez, vous avez d'un côté un peu de coût, mais vous avez pour les recettes de l'État aussi un petit peu de bénéfices. Et au final, et c'est ça qui nous a réellement étonnés, c'est au final, il n'y a pas d'impact. Donc non, quand on dit c'est une catastrophe ou c'est un séisme, vous voyez, du point de vue des finances publiques, ça c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on observe depuis 30 ans.
Quand on travaille sur un tel sujet, comment on fait pour ne pas se laisser emporter par ses propres convictions et comment on fait pour que ceux qui ont des convictions sur ces questions-là vous croient et ne se disent pas c'est biaisé, ils ont envie de démontrer ce qu'ils disent?
Oui, bien sûr. Bon, c'est une question qui pourrait être générale pour beaucoup de scientifiques, hein, ou tout cas pour beaucoup de scientifiques qui travaillent sur des sujets intéressants. Je veux dire, très souvent, je veux dire, en effet, il peut y avoir des convictions. Eh bien, en fait, finalement, la méthode, elle est comme dans beaucoup de sciences, c'est-à-dire que ce qu'on fait est totalement ouvert et totalement réplicable. D'accord? Tout le monde peut reprendre les données, tout le monde peut voir quelles sont les méthodes que l'on utilise. Ce sont des méthodes qui sont scientifiquement réputées comme étant les meilleures en ce moment, et ils peuvent reproduire, répliquer nos résultats. D'accord? Donc le processus en fait de référé et de publication internationale, justement propose ce dialogue entre les personnes. Et donc si je disais quelque chose qui serait faux, vous voyez, immédiatement il y aurait des dizaines et des dizaines d'autres équipes de recherche qui viendraient me montrer que c'est faux.
Une dernière question, Axel.
Oui, pour terminer, aujourd'hui, pour vous, toute déclaration qui laisserait entendre que l'accueil de migrants ou de demandeurs d'asile coûte de l'argent à la société, à l'État, serait une fausse information, même si on parle pays par pays, parce que là vous parlez pour 15 pays, mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire ça clairement au micro?
Non, mais on rentre pas au niveau de chaque pays. Hein. On regarde une réponse globale sur 30 années, etc. Moi, ce que je dirais au micro, c'est que ce que nous disent les statistiques, ce que nous disent des modèles qui sont justement pas biaisés idéologiquement, c'est que globalement, ça n'a pas eu de coût. D'accord. Donc il y a énormément de dimensions qui sont importantes dans l'accueil des migrants, dans l'accueil des demandeurs d'asile. Il y a des enjeux qui sont politiques, il y a des enjeux qui sont diplomatiques très forts en Europe, etc. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est ne nous chargeons pas en plus de cette fausse croyance qui nous annoncerait que ça va être un séisme économique.
Merci à vous, Hippolyte Dalbis et Axel. À demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les secrets de l'univers sont à portée de main. En effet, la caméra de nos smartphones est capable de détecter des particules cosmiques venues du fin fond de l'univers. Une équipe polonaise a mis au point une application gratuite, Credo Detector, c'est son nom, sur Android. Les chercheurs comptent sur la participation de milliers de personnes à travers le monde pour collecter ces infimes traces du passage de rayons cosmiques, une sorte d'observatoire mondial version science participative, en constituant ainsi une base de données conséquente sur les particules cosmiques. Les chercheurs espèrent en apprendre plus sur l'énergie noire et d'autres phénomènes mystérieux de l'univers. Pendant que l'exposition T-Rex se poursuit au Muséum de Paris, une nouvelle étude suggère que la plupart des dinosaures, aussi effrayants fussent-ils, étaient incapables de tirer la langue. Les chercheurs ont comparé l'anatomie d'une variété de dinosaures à leurs descendants directs, les oiseaux, et à leurs plus proches cousins, les reptiles. Conclusion, la mâchoire de ces dinosaures ressemblait davantage à celle des alligators. Or, ces animaux sont incapables d'étendre la langue. L'image du tyrannosaure qui fait onduler sa langue comme un serpent avant de dévorer sa proie n'est donc que fiction, n'en déplaise aux réalisateurs de Jurassic Park. Et pour terminer en musique, voici le chant du bruant des marais. des chercheurs ont pu estimer l'âge de ce chant 1500 ans par une analyse statistique des différents sifflements émis par plus de 600 espèces d'oiseaux de l'espèce des passereaux. On le sait donc maintenant, les humains ne sont pas les seuls à se transmettre une culture orale de génération en génération. Ces bruyants des marais le font aussi.